franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Il paraît qu'il y a des gens qui laissent toute la journée leur télé allumée. Et même quand ils ne sont pas là, quand ils sortent faire les courses ou qu'ils vont travailler. Et parfois ils expliquent que c'est pour leur chien qui reste à la maison. Eh bien oui, la télé, ça lui fait de la compagnie. Mais dès lors, que voit donc un chien quand il regarde la télé? Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau aux chiens quand ils sont devant un écran? C'est la question que pose le site The Conversation. En se référant à une étude menée sur le sujet, j'avoue que je ne savais pas que des chercheurs menaient de telles études. Mais bon, si ça peut faire avancer la science, après tout, pourquoi pas? Première conclusion, les chiens ne perçoivent pas les images comme nous. Ils sont dotés d'une vision dichromatique, ce qui signifie qu'ils distinguent uniquement les nuances de jaune et de bleu. Leurs yeux sont par ailleurs plus sensibles au mouvement, raison pour laquelle ils seraient plus accros aux télés en haute résolution. Mais donc, qu'est-ce qu'ils aiment regarder? Eh bien, selon cette étude, les chiens ont un goût prononcé pour les programmes qui montrent des chiens. Sachant que ce sont surtout les sons qui les attirent vers les écrans, les aboiements et les gémissements de leurs congénères. Cela dit, ils ne regardent pas la télévision comme nous, non. Ils restent rarement vautrés sans bouger sur leur canapé, mais ils font des allers-retours incessants. Le coussin, le poste, le coussin, le poste, le coussin, le poste. Durée maximum de leur attention, 3 secondes à zioter le programme. Souvent, vous me direz que ça ne mérite pas plus. Vous en pensez quoi, Patricia? Alors, je ne sais pas combien de chiens regarderont le débat de ce soir. Deuxième débat des candidats à la primaire de la Belle Alliance, comme on dit. 7 candidats face à 15 caméras et 200 spectateurs dans le studio. Les téléspectateurs, on ne saura que demain combien ils étaient. Un débat de 2h30 pendant lequel ils exprimeront leur point de vue sur l'Europe, sur Poutine et sur Trump, leur vision de l'écologie, de la gauche et de l'éducation. Dans le journal du dimanche, vous lirez que les équipes de chacun des candidats considèrent que le premier débat était franchement raté. Les amis de Benoît Hamon l'ont trouvé beaucoup trop peu souriant, faut dire qu'il avait mal au dos. Les amis d'Arnaud Montebourg l'ont trouvé pas assez offensif. Et comme d'autres, un ami de Vincent Payon concède, je cite, « on sait quand même ». Emmerdé. Le mot ennuyé serait un petit peu plus poli. Mais aujourd'hui, le principal objet d'ennui de tous les candidats qui participent à cette primaire et débattront donc ce soir, leur principal ennui, c'est la concurrence de deux autres candidats, en l'occurrence Mélenchon et Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui hier a eu ce bon mot à propos du PS. Plutôt que de présenter un candidat, il ferait mieux de présenter ses excuses, hommage à Mitterrand qui avait dit pareil à propos de Giscard. Quant à Emmanuel Macron, il est en photo à la une de l'hebdomadaire sous ce titre « Macron menace la primaire ». Sondage à la hausse, grosse affluence à ses meetings. Hier, c'était à Lille, près de 5000 personnes. Et puis des ralliements en cascade. Serge Le Pelletier, Corinne Lepage, Jean-Marie Cavada, le communicant Claude Pasternak, pourtant proche de Martine Aubry. Même l'ancien communiste Patrick Braouezek-Stat est dans la garde rapprochée du président de la République. Certains ne cachent plus désormais qu'ils voteront pour Emmanuel Macron, Jean-Pierre Mignard, Bernard Poignant et sans doute également François Rebsamen. D'après le journal du dimanche, Ségolène Royal le conseille même depuis quelque temps en coulisses. Ils échangent des textos et dès qu'aura pris fin la primaire, elle devrait dire, selon l'hebdomadaire, qu'Emmanuel est le seul à faire pouvoir gagner, à pouvoir faire gagner la gauche. Du reste, François Hollande lui-même pourrait décider de le soutenir. C'est du moins ce qu'affirme l'avocat Dominique Vimot, un ami du chef de l'État. D'après lui, François Hollande se prononcera au plus tard début mars et il soutiendra donc probablement Emmanuel Macron. Prévision d'un intime, lui-même devenu macroniste, si tant est que ce mot-là existe. Les socialistes sont donc chaque jour un peu plus nombreux à quitter le navire pour rejoindre celui qui a le vent en poupe. Et de plus nombreux à penser que le candidat désigné du Parti Socialiste devra s'effacer devant lui. Et tant pis, si l'on ne sait toujours pas très exactement quelle est la direction que prend ce bateau-là.
Et pourtant, bizarrement, l'homme de l'année 2017 s'appelle Alain Juppé.
C'est du moins ce qu'on peut lire dans la revue du Vin de France, qui tous les ans, comme au César ou aux Victoires de la Musique, décernent différents trophées, le vigneron de l'année, le négociant de l'année, le spiritueux de l'année et donc l'homme de l'année pour la Revue du Vin de France, s'appelle Alain Juppé parce qu'il a lancé dans sa ville l'événement Bordeaux Fête le Vin, puis créé la Cité du Vin, inaugurée en juin dernier, 250 000 visiteurs en 6 mois, un succès immédiat. C'est la semaine dernière que le candidat malheureux de la primaire de la droite a reçu son prix lors d'une cérémonie dans un grand hôtel parisien. Pour moi, cette année commence mieux que 2016 ne s'est terminée, s'est amusé Alain Juppé, ajoutant « Vous n'imaginez pas quelle est ma joie d'arriver enfin sur la première marche du podium. »
Comment rendre les lieux de culte plus attractifs ?
Eh bien, pourquoi pas en y installant une salle de musculation. Selon le magazine Outside, cité cette semaine dans Courrier International, c'est la nouvelle tendance lancée par des églises américaines, des salles de sport ultra luxueuses, à la fois à la gloire du fitness et de Dieu. Et la revue explique qu'à une époque où les congrégations comptent de moins en moins de membres, l'une des principales raisons d'être de ces salles de gym, s'appuyant sur la foi, est de rendre l'évangile plus séduisant. 10 minutes de rameur, 2 pages de l'Ancien Testament, 20 minutes d'abdos fessiers, 6 pages du Nouveau Testament. L'enjeu premier est donc de moderniser l'image des églises et surtout de motiver les fidèles à s'y rendre et pas seulement le dimanche matin. Sur le sujet, je vous conseille par ailleurs la lecture du reportage de Maxime Mallet dans le magazine L'Équipe. Reportage à New York, dans le Bronx, où des moines franciscains vont au devant des plus démunis, ballons de basket à la main. Là encore, il s'agit de toucher le public le plus large, prêcher la bonne parole, par le biais du sport que les jeunes pratiquent dans la rue. Ces hommes-là m'ont sauvé. Sans eux, je serais sans doute en prison, témoigne ainsi Miguel, un latino de 22 ans qui vient souvent s'entraîner dans le gymnase de ses frères franciscains, des moines basketteurs, qui troquent donc leurs sandales contre des chaussures de sport. En revanche, ils ne quittent jamais leur robe de bure à capuche. D'ailleurs, dit l'un d'eux, c'est un peu frustrant de jouer avec notre habit. On ne peut pas faire passer le ballon entre nos jambes. Et de fait, pour les dribbles, la robe de bure, ce n'est pas commode. Vous en pensez quoi, Pascal ça? Pour le reste, aujourd'hui, le Parisien ouvre ce matin le dossier sur la plaie de l'absentéisme chez les fonctionnaires. Il explose, notamment chez les agents territoriaux et dans les hôpitaux. Explosion des absences pour maladie ou pour accident du travail en cause, le vieillissement, de même que la pénibilité de certains postes, mais aussi les abus. Il y a des abus et des sanctions devraient être progressivement mises en place. Le JDD propose un document exclusif, ce que Kim Kardashian a dit à la police. La starlette de télé-réalité a raconté par le détail son agression tout début octobre à Paris. Ils m'ont attrapé et emmené, j'étais en peignoir. Bon, franchement, on s'en moque un peu, vous serez d'accord. Patricia. Enfin, je terminerai sur deux infos qui sans doute intéresseront les chiens. Dans le supplément Île-de-France du Parisien, le retour du loup près de Paris, selon deux associations. Des canidés auraient été récemment observés en Essonne et dans les Yvelines. Les loups vont donc peut-être entrer très bientôt dans Paris, même si les autorités se montrent pour l'heure assez sceptiques. Et puis une info animalière, autre info dans les colonnes du JDD, les babouins seraient sur le chemin de la parole. C'est le résultat d'une étude publiée cette semaine dans une revue américaine, étude montrant que les babouins peuvent produire au moins 5 sons qui s'apparentent à des voyelles. Ils peuvent même combiner ces sons, par exemple un A et un U, ce qui leur permet de lancer « waouh », la théorie dominante qui affirmait que là que la parole était apparue avec l'homme moderne il y a 100 000 ans, prend donc un sacré coup de vieux. Cette parole serait en réalité nettement plus ancienne. Vous en pensez quoi, Patricia ?
Wow !
Eh bien voilà, vous imitez donc non seulement très bien le chien, mais aussi le babouin. Bonne journée.
J'accepte le compliment. Merci Frédéric Pommier, j'ai plus de voix maintenant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle qui accompagne la santé des entreprises et des particuliers. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R, la mondiale.
On m'aura tout fait faire en ce bas monde.